As-tu déjà regardé un porno féministe ? Si tu veux découvrir les coulisses du porno alternatif, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Soif de sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Olympe de G pour parler de porno féministe. Salut Olympe.
Bonjour.
Alors, je te présente en 10 secondes. Ton pseudo d'abord, qui doit intriguer les gens, est un clin d'œil à Olympe de Gouges, donc une pionnière féministe, notamment autrice de la Déclaration des droits de la femme. Et j'ai appris grâce à toi qu'elle était guillotinée. Pas cool. Toi, t'es aussi féministe, mais t'es réalisatrice de films érotiques et aussi de podcasts érotiques comme Vox et Cox, avec 3X, si vous êtes curieux. Et tu es l'autrice d'un livre dont j'adore le titre, Jouir est un sport de combat. Et plus globalement, donc tu te bats pour une meilleure industrie du porno, un porno meilleur, tant dans le contenu final que sur les tournages. Pour commencer, les gens croient parfois que pour devenir actrice porno ou réalisatrice, puisque tu as fait les deux, faut avoir vécu des choses horribles ou avoir un trauma ou je sais pas quoi. Toi, tu t'es lancée dans le porno grâce à Tinder. Est-ce que tu peux nous raconter ?
En ce qui me concerne, le porno, ça a été une façon de me réapproprier mon corps et ma sexualité. Ouais. Donc il y a eu une démarche assez thérapeutique. Et donc je raconte la façon dont ça s'est passé. J'ai vécu jusqu'à 33 ans une vie assez rangée. Je bossais dans la pub. J'étais même mariée. Et puis j'ai divorcé. Et je me suis mise à la réalisation de clips à l'époque.
Okay.
Et je cherchais un petit peu un sujet pour écrire mon premier court-métrage, je savais pas trop quoi faire. Et donc, comme j'étais célibataire, j'étais aussi sur Tinder, et c'est en fait en dialoguant avec des amants que je me suis rendu compte que j'avais une véritable passion pour la mise en scène de situations, dire érotiques, en tout cas, excitantes, quoi. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancée, et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de sexualité féminine dans mon premier court-métrage. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais en fait, c'est fou, parce que depuis mon adolescence, en fait, on m'explique que le fait d'être désirante, je devrais en avoir honte, ça fait de moi une salope, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez stigmatisant. Et ouais. J'ai eu envie de sublimer ce désir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers court-métrages.
Donc tu faisais des trucs, des sextos, je sais pas, avec des super angles, la lumière et tout, et à la fin tu t'en foutais un peu du mec et t'étais là, putain, mon art est vraiment stylé.
Exactement, je me suis même dit, mais pourquoi j'envoie ça qu'à cette personne en fait, le monde a besoin de voir ça. Mais non, mais c'était vraiment en fait j'y passais du temps, j'écrivais des chansons, c'était des productions, productions carrément. Et puis tu vois, sur Tinder, comme tu croises un peu tout type de profil avec des bien souvent quand même une volonté d'investissement dans la relation humaine assez limitée, et je me suis dit tu vois, ça suffit en gros d'envoyer ces chefs-d'œuvre à des cons. Ouais. Je vais plutôt en faire profiter l'humanité.
Oui, t'as les dick pics et puis toi tu mets la barre assez haut, quoi, ce genre. Pourquoi elle m'a pas répondu depuis 2 heures? Elle doit pas être intéressée. Non, elle est en train de faire un court-métrage.
Elle en est à sa 5e prise.
Mais effectivement, je me rends compte en posant la question que si on croit qu'il faut avoir vécu des traumas ou quoi, c'est aussi parce que ce que tu dis, qu'on a l'impression qu'une femme sans trauma, en bonne santé, je sais pas trop comment le dire adroitement, pourrait pas avoir pleinement du désir et l'assumer et avoir envie sans être forcément forcée ou torturée. Enfin, non, en fait, c'est. Et du coup, ouais, c'est assez révélateur de du patriarcat et de. Ce que tu disais un peu à demi-mot dans une interview, que y a pas mal de femmes qui croient qu'elles doivent faire l'amour pour faire plaisir à quelqu'un. Ou toi, c'est pour ça, je crois, que tu as commencé à regarder du porno pour être un meilleur plan au lit, quoi.
Oui, pour me former. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a pas fait du bien, parce que quand j'ai vu à l'âge de 18 ans et demi je voulais savoir comment on faisait une bonne fellation, etc., et que je suis tombée sur des sexes énormes qui rentrent jusqu'à le fond. J'étais là. Je vais jamais y arriver, ça m'a filé encore plus de complexes, quoi. Ça m'a pas du tout rassurée. Ouais. Mais oui, en fait, je pense qu'il y a un tel tabou autour de la sexualité féminine, que dès qu'elle sort, en fait, du cadre, bon, de la procréation, là, ça c'est depuis toujours et ça reste, bon, ça reste là, ouais. De la procréation d'un côté, mais de façon plus actuelle, du cadre intime, amoureux, on a l'impression que dès que la sexualité sort de ça, bah, y a un truc qui va pas, quoi, qu'il va y avoir, que ça correspond à une démarche un peu autodestructrice, qu'on ne se respecte pas. Bon, ça c'est, je schématise vraiment, mais c'est vrai que ça, qu'il y a encore ce bien enfoui, cette espèce de préjugé, quoi.
Ouais, parce et que tu reprends ton pouvoir et ça plaît pas.
Bah oui, et puis. Pour moi, le côté très thérapeutique que ça a eu, le fait de faire du porno, enfin donc de mettre en scène mon propre corps, c'était de dire, mais en fait, arrêtez de me dire ce que je dois faire de mon corps. Ouais. Si j'ai, c'est parce que c'était tellement vu comme quelque part le truc, enfin un peu tu touches le fond, quoi. Le moment où t'es à poil sur Internet en train de baiser, c'est genre tu peux pas aller plus bas, quoi. Quelque part, il y a un truc comme ça. Hein. Et donc je me suis dit, mais voilà, en fait, une fois que j'aurai fait ça, on va me foutre la paix parce que je vais le faire, je vais montrer que j'en suis contente, que j'en suis fière. Et en fait, regardez, tout se passe bien, quoi. ça, le tatouage, ça faisait vraiment partie d'un truc. Arrêter de me. Voilà, je veux plus qu'on me dise ce que je dois faire de mon cul, de mon corps, de ma peau. Enfin, voilà, je fais référence aussi au tatouage. Ouais. Donc, ça a été très, très libérateur. Ouais, voilà.
Je comprends bien. T'as d'abord été actrice. Vous dites performeur. Je me demandais s'il y avait une raison pourquoi vous dites plutôt performeur que acteur ou actrice.
Alors, pour moi, j'utilise ce terme parce que je l'ai entendu utiliser à Berlin et il me parle plus en ce qui me concerne moi parce que je ne suis pas actrice du tout. C'est-à-dire que je suis incapable de jouer de simuler quoi que ce soit. Donc oui, il y a de la mise en scène. Je ne vais pas prétendre que c'est un documentaire total, etc. Ce serait
fou. Tu n'as pas rencontré cet homme dans une station essence.
Ouais, je n'ai pas rencontré un homme nu sur les trottoirs de Berlin. Mais pour autant, donc je trouve que performer, c'est OK. Donc ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui est mis en scène, etc. Mais je ne suis pas en train de jouer. Donc c'est un truc qui est un petit peu.
C'est du vrai plaisir.
Donc c'est un truc. Moi, c'est comme ça que j'utilise le mot performer. Je pense que pour d'autres personnes, peut-être que ça renvoie à un statut plus artistique, tu vois. Okay. Je sais pas.
Très bien, ouais, bon, on va en parler. Avant d'attaquer effectivement dans le porno éthique et alternatif et féministe, je ne sais jamais trop lequel utiliser, j'aimerais bien qu'on explique un peu c'est quoi un peu les problèmes du monde du porno. Dans ta carrière, si c'est OK pour toi, est-ce que tu as des histoires à nous raconter où tu t'es dit que un tournage ne collait pas avec tes valeurs ?
Alors moi déjà, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience de tournage et j'en ai pas du tout fait dans le mainstream. C'est-à-dire que les seules fois où j'ai tourné, c'était pour des femmes. Donc pour Lucy Blush et Erika Lust et pour moi-même. Donc,
t'as commencé direct
Direct dans le porno alternatif, ce qui fait que moi je connais pas du tout le porno mainstream de l'intérieur. Je connais parce que voilà, je regarde les documentaires et je lis comme tout le monde, mais voilà, moi je connais pas. Après, même dans le porno alternatif, enfin tu vois, c'est un travail et donc oui, il y a eu des trucs qui étaient pas exactement en adéquation avec. J'attendais.
Dans ces milieux engagés, quoi.
Bah oui, je te donne un exemple. Mon tout premier film, qui s'appelle Un beau dimanche, je l'ai tourné donc pour une autre réalisatrice et je me disais, enfin en fait à l'époque le contrat qu'on avait un petit peu conclu, c'était du coup ce film ne sera accessible que derrière un paywall, donc il faudra payer pour y accéder et ce sera donc sur le site de cette réalisatrice féministe uniquement. En fait, j'ai découvert, je sais plus combien de mois plus tard, que en fait finalement, le film était en accès libre sur une grosse plateforme gratuite. Voilà, et ce qui n'était pas du tout l'objectif. Moi, en fait, quand je me suis lancée là-dedans, quand j'ai donné à voir mon corps, mon intimité, etc., je pensais que ça allait être pour un public restreint et féministe. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas idéal.
C'est vrai que, en plus du sexisme, c'est pour ça qu'on parle un peu de porno féministe, t'as aussi la précarité ou potentiellement l'exploitation de mineurs. Mais surtout, j'avais jamais conscientisé que le porno est souvent raciste et qu'une arabe est forcément soumise à un arabe dominant, qu'une femme noire est forcément extravertie et un mec noir avec un gros sexe. En fait, c'est ultra raciste, quoi. Pourquoi est-ce qu'un arabe, il devrait avoir honte d'être romantique ? Pourquoi est-ce qu'un noir, il devrait avoir honte s'il n'a pas un sexe énorme, quoi. Enfin, j'avais pas réalisé ça.
Bah oui, en fait, ce qui est intéressant avec le porno, d'ailleurs, ça me donne vraiment envie de suivre un cursus de ce qu'on appelle les porn studies, qui s'inscrivent un peu dans les cultural studies, donc par exemple les gender studies, etc. Mais en fait, donc, ce sont des universitaires qui vraiment étudient le porno, notamment de façon sociologique.
Je crois que c'est encore plus bizarre comme métier que
Mais
réalisateur porno.
c'est ultra intéressant. Moi, j'aimerais bien. Ça se fait plutôt au Canada, aux États-Unis. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup suivre ce type de cursus. Parce que, en fait, quand tu étudies le porno mainstream, je pense que ce qu'il est intéressant de voir, c'est que il propose des caricatures, en fait, des rapports de domination, d'oppression qu'on a dans notre société. Donc, en fait, tu vas. Enfin, comme tu vois, le jeu dans un porno, c'est toujours très outré, quoi. C'est vraiment surjoué, etc. Ben en fait, c'est vraiment ce que tu retrouves. C'est les stéréotypes racistes qu'on peut avoir en tête qui sont là, mais grossis énormément. Tu les vois, mais voilà, en énorme. Et du coup, on est là, ah ben oui, c'est pas top comme stéréotype. Mais tu vois, de la même façon qu'il y a des stéréotypes sexistes sur la façon dont les hommes veulent faire l'amour et les femmes veulent faire l'amour, hein. Il y a aussi ce truc de tout pour faire plaisir à l'homme dans un couple hétéro, et enfin voilà, il y a une espèce d'excitation qui pour l'homme passe un petit peu par une vague humiliation de la femme, quoi. Donc c'est tous ces stéréotypes-là, ça vient quand même ça vient quand même de de la façon dont notre société est encore faite, même si c'est de moins en moins visible.
Ouais. Donc effectivement, tu as d'abord bossé pour d'autres personnes dans le milieu du porno alternatif, et maintenant tu fais tes propres courts-métrages. Par exemple, tu as réalisé le film l'an dernier, Une dernière fois, avec Brigitte Lahaie, que tu as convaincue de revenir dans le porno, diffusé sur Canal, sur l'histoire d'une femme, pardon, sur l'histoire d'une femme de 69 ans qui va programmer sa mort, mais aussi la dernière fois qu'elle fera l'amour. Comment t'en es arrivé à ce concept assez catchy?
Alors déjà, c'est un long métrage une dernière fois et ça j'en suis
Oui,
très fière.
oui.
Pardon,
Non, non,
parce
mais t'as
qu'en fait
raison.
c'est parce que je trouve que enfin ça m'intéressait beaucoup. Comment dire que je trouve que tu vois dans le porno mainstream, la façon dont ça fonctionne avec les hashtags, etc. Tu vois, on va taper big tits ou tu vois bush ou je sais pas quoi. Et je trouve que la façon dont ça fonctionne, en fait, on s'intéresse aux personnes qui sont filmées et on s'excite sur les personnes qui sont filmées juste pour des espèces de caractéristiques comme ça qui font qu'on les fétichise un peu. Enfin, on les ramène à une caractéristique corporelle. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de différents, quoi, et notamment qu'on trouve les personnes excitantes parce que on les comprend, quoi, parce qu'on les voit
Qu'il y a
vraiment
une
comme des
histoire, ouais.
individus à part entière et qu'on s'attache à elles. Et donc c'est pour ça que pour moi le format long métrage était super intéressant. Et donc écoute, cette idée de parler d'une femme de plus de 60 ans, elle est venue lorsque j'ai contacté Canal+, parce que donc c'est les seuls en France à produire encore des longs métrages de porno avec un petit peu de budget, même si c'est voilà, c'est pas énorme. Et donc je suis allée les voir et ils ont regardé mes courts métrages précédents, donc mes courts métrage précédent, j'ai une orgie avec des gens, enfin avec un mec qui joue du violoncelle à poil, j'ai un film, c'est un genre un microcosmos du cul, c'est des gros plans ultra ralentis des parties génitales pour montrer leur beauté. Enfin, donc Canal, le mec de Canal, il regarde ça et il me fait bon bah enfin tu vois en même temps là c'est pas un musée d'art contemporain Canal+, donc je vois pas trop ce que tu vas pouvoir proposer. Et là, je lui dis, t'inquiète, moi j'ai fait de la, enfin, tu vois, j'ai fait de la pub, donc je sais, je suis pas une espèce d'artiste perché. J'adore faire ce que je fais, mais en fait, si tu, je sais aussi m'exprimer d'une façon qui me plaît dans le cadre d'un brief. Donc, vas-y, dis-moi ce qui marche sur Canal. Et là, il me dit, écoute, en fait, comme Canal, c'est quand même plutôt des abonnés qui sont à la campagne et plutôt âgés. En fait, ce qui marche du tonnerre, c'est des films, et là il me sort des titres genre Mamie a une grosse touffe poilue, Mon gros chibre dans Mémé, enfin tu vois, que des trucs comme ça avec des femmes de plus de 60 ans. Et donc, bon, tu vois, vu les titres, j'ai pas trop eu besoin d'aller voir le film pour me dire, bon, il y a moyen de mettre en scène une femme de plus de 60 ans de façon un petit peu plus nuancée, intéressante et sensible. Et donc, je me suis dit, banco, c'est là-dessus que je vais travailler. Et en plus, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que en fait dans le même enfin dans le cinéma ce qu'on appelle traditionnel dans le monde du porno, enfin dans le cinéma de fiction, on voit quand même très peu de femmes mais là même des femmes de plus de 50 ans qui sont désirantes, qui sont désirées, voilà. Donc je me suis dit bah là je vais faire un film qui va être entre le porno et le film de fiction et qui va mettre en scène donc une femme de plus de 60 ans qui va être superbe, qui va être désirante et excitante.
Trop bien. Je sais pas si moi j'entends le chat.
Oui, alors j'ai un vieux chat.
Une porte, ou est-ce qu'il est dans une...
J'ai un vieux chat qui a 15 ans et qui est sourd comme un pot et qui est très relou. Attends, je le montre. Voilà, c'est lui.
Alors... Si vous entendez des bruits de chat, c'est lui le coupable.
Le seul moyen de le faire taire, c'est que je lui donne un sachet vite fait.
Des astuces de grand-mère pour réussir.
Voilà, un petit sachet et me revoilà.
Trop bien. C'est vrai que le porno, ça va être souvent du contenu très court, très droit au but. Voilà, j'ai 10 minutes, je veux masturber. J'ai pas le temps, quoi. Alors que, bah non, t'as. Du coup, toi, t'explores et tout le porno alternatif aussi. C'est des formats beaucoup plus longs et en fait, c'est plus un film érotique qu'un porno.
Bon, en fait, je fais pas tellement la distinction entre érotique et porno, dans le sens
oui,
où.
Je suis pas sûr d'utiliser le porno.
Non, mais t'inquiète. Enfin, c'est chacun qui fait ses propres définitions. Et moi, la définition. Enfin, pour moi, un film érotique, c'est un film qui met en scène. Enfin, où il y a des scènes de sexe, mais on voit pas un sexe masculin en érection, enfin, plutôt un phallus, quoi, ou une vulve ouverte. Oui, alors que dans
implicite.
Le porno. Voilà. Alors que dans le porno, tu vas être exposé à ces images. Voilà. Donc pour moi c'est ça la différence entre érotique et porno. Et du coup attends j'ai complètement perdu le fil de ma pensée.
Est-ce que tu peux me redire ce que tu veux? Vous allez, on prend beaucoup plus le temps et du coup c'est un autre rapport aussi. Je pense qu'il faut désapprendre aussi la manière dont on consomme des films érotiques ou de porno parce qu'effectivement c'est tu as beaucoup plus d'espace pour te faire surprendre, pour te faire embarquer dans une histoire. Et en fait, c'est plus comme si tu te prévois une soirée où tu vas regarder un film que, j'ai 10 minutes avant, je sais pas quoi, d'aller chercher les gosses, j'en sais rien.
Bah, tout à fait. En plus, oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Pour moi, en fait, que le film, il montre ou pas des sexes en érection, enfin, tu vois, que tu les devines ou que tu les vois. En fait, ce que je trouve intéressant dans le fait de mettre en scène la sexualité, c'est que tu proposes un contenu culturel, en fait. Pour moi, si un porno est excite, enfin, tant mieux pour toi, tu vois, c'est ton petit jardin secret. Mais au final, il peut avoir aussi une autre vocation. Comme quand on lit un livre, en fait, celle de te faire découvrir des choses, de te faire réfléchir à ta sexualité, aussi à la sexualité d'autres personnes. Moi, par exemple, le fait d'aller dans des festivals de porno, alors je dirais pas que j'étais discriminante, mais par exemple je ne comprenais pas du tout le fait qu'on puisse aimer la douleur dans les rapports sexuels, quoi. Donc tout ce qui était châtiment corporel et tout, j'étais là mais je comprends pas du tout. Et le fait de voir des films, j'ai mieux compris. J'ai fait ok, alors ça m'intéresse toujours pas, mais je regarde moins ça comme un truc complètement alien, quoi. Et en ça je trouve que ouais, que ça peut juste permettre de s'ouvrir à tout un tas de choses qui peuvent faire peur et d'accepter, je sais pas, plein de façons d'exprimer, d'aimer son corps, etc. Enfin...
Ouais, et puis il y a tellement de tensions ou de honte ou de culpabilité autour du sexe que quand tu te rends compte à quel point, effectivement, les produits qu'on nous propose sont ultra formatés, pré-mâchés et standardisés, t'es là, mais waouh, en fait, il y a plein d'autres manières de consommer du sexe, en tout cas visuellement ou auditivement, qui, bien sûr que ça a un impact sur notre rapport au sexe, quoi.
Bien sûr. En fait, c'est moi je trouve que c'est un peu comme le rapport à la nourriture, le rapport au porno, enfin, dans le sens où,
Ça sent bien, si on peut avoir de la bouffe gratuite.
écoute, moi je fais un peu un rapprochement entre la bouffe très bon marché industrielle et le porno gratuit, dans le sens où, tu vois, enfin, on a pris l'habitude, je sais pas, je te dis n'importe quoi, qu'une tranche de jambon, ça coûte, je sais pas, je mange pas de viande, hein, mais qu'une tranche de jambon, ça coûte 50 centimes, tu vois. Et du coup, on se dit, ok, ça c'est normal, quoi. Mais sans réfléchir à tout ce que ça,
ça
implique
santé,
qu'elle arrive là, à qu'elle coûte 50 centimes.
Et aussi,
qui vis en Bretagne, comment ça a été produit, la pollution aux algues vertes sur les plages bretonnes, la vie horrible de milliers de porcs. Enfin bon, bref. Et en fait, à partir du moment où tu commences à te documenter, à réfléchir, à goûter d'autres choses, etc., bah, tu vas te dire, bah, peut-être que je vais manger bah, du cochon, mais une fois par semaine, mais je vais payer un peu plus cher pour, etc. Ouais. Et bah, pour moi, le rapport au porno, c'est un petit peu... Alors après, bon, c'est une logique très bourgeoise. Hein, là, hein, je suis bien consciente que c'est une logique de personne privilégiée, hein, qui n'est pas obligée de payer 50 centimes pour se nourrir. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, bah, pour le coup, le porno n'étant pas de la nourriture, étant quand même plutôt facultatif dans la vie de tout un chacun, si on se met à réfléchir à ce que ça... Voilà, ce que ça implique de consommer gratuitement des trucs dont on ne sait même pas quel âge on, voilà, on est les acteurs, les actrices, enfin, dans quelles conditions ça a été produit. Bon, ça permet de voilà, enfin, comment dire, d'être, de consommer d'une façon qui est un peu plus raccord avec nos valeurs humaines, quoi. Ouais. Moi, c'est un truc que je trouve qu'en tant que consommateur en général, si on pouvait un peu plus réfléchir à comment mettre en rapport notre consommation avec ce nos valeurs humaines et ce qu'on espère voilà, pour nous-mêmes, nos enfants, la planète, les choses iraient un peu mieux, quoi. Et voilà, le porno ne déroge pas du tout à cette règle, quoi. C'est pas parce que c'est du cul qu'il faut pas y réfléchir, quoi, et qu'il faut pas...
Ouais, mais comme c'est tabou, on n'en parle pas. Et du coup, quand t'en parles, t'es là, bah c'est vrai, en fait, c'est pas du tout cohérent avec mes valeurs. Ouais. Et que bah, si tu trouves que cette industrie, enfin, le porno alternatif est minuscule par rapport à l'industrie mainstream, bah justement, on soutient l'UE et paye des films porno éthiques, quoi.
Et généralement, c'est là que ça bloque. C'est « Ah bah oui, mais non, mais j'ai pas envie de payer. » Bah oui, mais du coup, c'est dommage d'avoir à la fois un discours en disant « C'est terrible ce qu'on voit sur les plateformes mainstream. » Et en même temps, je veux pas soutenir des personnes qui proposent autre chose. Donc c'est voilà, là-dessus, il faut un petit peu se mettre en cohérence. Et c'est vrai que moi, j'entends... Alors, j'en parle pas tant que ça avec des mecs de leur consommation de porno. J'en parle plus avec des meufs. Et ce qui revient beaucoup, c'est, quand elles regardent du porno mainstream, c'est une espèce de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'elles vont, être excitées par ce qu'elles regardent, sur en termes de porno gratuit, mais après, ressentir une honte forte d'avoir regardé un truc, bah, par exemple, où la meuf se prend des fessées et des bites jusqu'à la glotte tout le long, quoi. Et du coup, ça c'est un truc que je trouve que ça vaut le coup de s'interroger. Pourquoi est-ce que je suis excitée par quelque chose qui est en fait contraire à ce que j'aimerais voir comme type de relation entre deux personnes, quoi. Donc ça, je trouve que ça mérite d'être interrogé. Et puis ça mérite aussi d'explorer est-ce qu'il n'est pas possible d'être excité par d'autres scénarios ou pour le coup qui sont vraiment raccord avec mes valeurs. Et c'est ce que propose le porno alternatif. Hein. Pour moi, c'est hyper important que quand quelqu'un regarde un porno que j'ai réalisé, qu'après, il n'y ait absolument pas ce sentiment de honte, déjà, d'avoir regardé un contenu sexuellement explicite, mais non plus ce que moi, j'ai pu ressentir en regardant du porno mainstream toute jeune, c'est d'avoir encore plus de complexe et d'anxiété de performance en se disant... qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux, moi je ferai jamais ça au lit. Enfin, c'est... Donc ouais.
Et j'avoue, je sais pas, accroche-toi, peut-être que je fais un parallèle qui me semble évident, mais qui l'est peut-être pas. Mais bon, je me rends compte que, enfin, pour moi, c'est évident que le porno que je consomme ou que j'ai consommé n'a rien à voir avec. Enfin, je me suis jamais dit ça se passe comme vraiment comme ça dans la vie sexuelle des gens et dans la mienne. Et du coup, ça me fait penser à la viande, où effectivement, on mange le mot viande plutôt que des animaux. Sans, bon, les lobbies ont énormément travaillé à ça, mais pour qu'il y ait cette déconnexion avec l'animal que t'abats dans de manière horrible, etc. Et c'est vrai que t'es là, en fait, si pour moi, les femmes qui, enfin, et les hommes aussi d'ailleurs, qui consomment, les personnes non binaires, du sexe alternatif ou éthique et féministe, culpabilisent moins et se sentent bien, en fait, après, c'est aussi parce que, ça ressemble plus à la réalité, en fait, que le porno, où c'est vraiment, pour moi, déconnecté, en tout cas, à 99% du temps, de la vraie vie sexuelle des gens, quoi.
Mais en plus, alors là, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qu'on entend beaucoup, j'ai l'impression, de la part des jeunes générations, quand il y a une tentative d'éducation sexuelle qui est très au porno, on entend beaucoup « Ah, mais comme bien sûr qu'on sait que c'est de la fiction, bien sûr qu'on sait que c'est pas comme ça. » Mais en fait, je trouve qu'il y a... le sujet, c'est pas de se dire... il faut faire attention, ce qu'on montre dans le porno mainstream, c'est pas la vraie vie, en fait. Le sujet, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on me montre justement cette fiction de sexualité-là ? Qu'est-ce que ça me renvoie, en fait, et en quoi ça me formate ? Enfin, c'est plutôt ça, pour moi, la question à se poser, quoi. Je sais que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder des meufs qui se font jouir sur la gueule tout le temps ? Enfin, c'est au lieu qu'elles jouissent elles, en fait. Moi, c'est plutôt cette question-là que j'aimerais bien qu'on se pose. Et en fait, le porno qui est gratuit, il est fait dans une logique qui est purement commerciale. Hein. Il y a pas, je pense qu'on va pas, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Il n'y a pas une grande prétention artistique ou politique derrière ce qu'on voit dans le porno mainstream. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est ça qui marche, en fait ? Pourquoi est-ce que c'est là-dessus que les gens cliquent, en fait ?
J'avais pas pensé que ça pouvait être artistique, en fait, et que je crois qu'à la base, ça l'était beaucoup plus, le porno, effectivement, c'est de la réalisation du film d'auteur, potentiellement, ça peut être vraiment beau, quoi.
Bien sûr, et puis pourquoi est-ce qu'on décide que consacrer des films entiers à de la violence, à de la guerre, à des meurtres, etc., ça c'est cool, mais que par contre représenter la sexualité humaine, ça, dégueu, on veut pas investir là-dedans, bande de tordus, tu vois. Ouais. Je suis désolée, vraiment, c'est un cliché, hein, mais je veux dire, je dis vraiment quelque chose d'évident, mais moi ça continue de me... Ça continue de m'interroger, parce que pour le coup, j'espère que le meurtre et la guerre va pas trop faire partie de nos vies personnelles. En revanche, la sexualité, le désir, le rapport intime, ça fait partie de nos vies à tous et à toutes, a priori. Enfin, en tout cas, une très large majorité d'entre nous. On aspire, en tout cas, généralement, en tant qu'être humain, à avoir des moments d'intimité avec d'autres êtres humains. Donc, pourquoi le fait de filmer des histoires autour de ça, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut se passer en termes de blocage, etc. Pourquoi est-ce que tout ce terrain-là, il n'est pas pris en charge aussi par le cinéma, tu vois ? Alors, on raconte des histoires d'amour. Alors ça, sur la dynamique amoureuse, voilà. dès qu'on rentre dans la scène intime, c'est très stéréotypé, quoi. C'est très très formaté. Et là, l'inventivité, plouf. Enfin, et ça, je trouve ça dommage, effectivement, que la sexualité.
Tu bosses beaucoup là-dessus et tu évoquais un de tes films où il me semble, ça commence par une orgie où en fait ça commence avec 10 minutes de discussion pour créer un safe space, avec quoi, quelle pratique t'es ok, avec quelle pratique t'es pas ok. Et j'étais là, mais c'est génial en fait, pourquoi j'ai jamais vu ça? Et est-ce que ça, par exemple, c'est un porno éthique pour toi?
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'était un docu-porn, on va dire, ou un docu avec un L après le U. L'idée, c'était vraiment de mettre en scène les négociations autour du consentement. Donc là, c'était particulièrement intéressant parce que il y a 9 personnes, donc c'est d'autant plus compliqué. Comment est-ce qu'ils vont faire pour se rappeler des limites de chacun? Enfin, et c'est pour ça que la conversation elle se conclut sur.
Là, c'est important de se rappeler des prénoms des gens. Ouais. Tu vois tes petits problèmes en soirée? Non, là c'est pas pareil.
mais là du coup ce que j'aime bien c'est que la conversation elle se conclut par quelque chose qui est la règle, on va dire, d'or du consentement. C'est il faut, enfin, dans le doute, redemande avant de faire, en fait, et c'est vrai que ce que je trouve important dans le fait de mettre en scène le sexe, c'est qu'on sort de cette version très romantisée de nous brûlons de désir l'un pour l'autre, nous nous déshabillons et nous nous frottons l'un contre l'autre et nous jouissons ensemble. Enfin, le problème, c'est que il peut se passer plein de choses. Il peut se passer des trucs qui vont de moi finalement j'ai plus très envie, on n'a pas les mêmes goûts, etc. Et en fait, on est en train de découvrir depuis MeToo que il y a plein d'achoppements, de conflits en fait autour de la sexualité. Et on se dit, ah putain, incroyable, enfin tu vois, c'est fou, enfin on découvre ça, mais en même temps, si on montre jamais dans la littérature, dans la fiction, etc., que ce type de situation peuvent exister, si on montre le sexe comme à chaque fois un endroit d'harmonie, etc., comment est-ce qu'on aide tout un chacun à apprendre à gérer ces situations-là? Ouais, donc du coup moi je pense que le porno qui parle de cul doit s'y coller, quoi, doit montrer qu'est-ce qui se passe quand Toi, t'as envie d'une fellation. Moi, j'ai pas envie de te faire une fellation. Enfin, comment est-ce que c'est un drame en fait? Non, pas forcément à partir du moment où on en parle. Enfin, est-ce que c'est un drame si moi j'ai plus envie au beau milieu? Non plus. Et je pense que ça, et ça, tu vois, justement, avec le long métrage, ça permettait d'avoir le temps de d'aborder tout ça, quoi. De se dire, bon, bah là, il va y avoir des flops parce que dans la vraie vie, en vrai, il y a des flops du cul, hein.
Ouais, ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de mecs aussi de culpabiliser si tu bandes plus ou si t'as joué super vite ou si la fille a plus envie, enfin voilà.
Et bah ça, ouais, c'est carrément des sujets qu'on essaie d'aborder, notamment sur les podcasts, hein, Vox et Cox, qui est pour les personnes qui ont un pénis. Et je pense que là-dessus, tout le monde, en fait, l'éducation sexuelle, elle est bonne pour, qu'on ait un, je veux dire, même en tant que personne qui a une vulve, apprendre comment réagir quand une personne qui a un pénis n'a pas d'érection ou autre. En fait, c'est aussi, une condition pour qu'on se comprenne bien et que les choses fonctionnent bien. Hein. Donc, je pense que vraiment, il y a une éducation sexuelle qui doit être faite, quel que soit notre genre et aussi concernant le genre de la personne vers qui on est attiré, quoi.
C'est vrai que c'est cool, le consentement, on commence à en parler, donc c'est chouette. Mais en fait, c'est pas juste est-ce que tu as envie de faire l'amour, oui, non, et reposer la question toutes les 3 minutes. Et c'est ce que tu dis aussi, ça dépend vachement des pratiques, ou ça peut être. Enfin, moi, j'ai jamais entendu dans un film porno. Arrête, ou à ça non, ou fais plutôt par ici. Et toi, ce que tu crées avec tes films, c'est aussi ça, d'avoir des discussions en live et que pendant que tu fais l'amour, tu discutes, et même ça peut être excitant en plus, mais y a une discussion permanente et un aller-retour en permanence parce que c'est un peu plus nuancé que juste oui, j'ai envie de toi ou non, quoi.
Bien sûr. Et ce que tu dis sur les mots qui peuvent être excitants, effectivement, je pense que c'est vachement intéressant de le rappeler parce que souvent, j'entends, on me dit, ouais, mais enfin, c'est un peu tue l'amour, quoi. Ouais. Mais non, en fait, dire à quelqu'un avant de lui faire, j'aimerais bien te faire ça, en le regardant droit dans les yeux, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit, que ça casse l'ambiance. En fait, tout dépend comment c'est fait. Et c'est pour justement. Montrer que ça peut être fait de façon excitante, que j'essaie de mettre en scène ces conversations. Mais c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, je pense, c'est que le consentement, c'est quelque chose. Enfin, c'est même pas le bon mot, le consentement. Enfin, le fait de se sentir complètement à l'aise, etc. Dans sa vie intime par ses partenaires, c'est quelque chose de délicat en fait à mettre en place et il est aussi possible que nous-mêmes on croit qu'on va bien aimer quelque chose et qu'après coup on se sente j'aurais pas dû tenter ce truc quoi. Et ce qui est primordial c'est d'arriver en fait à et c'est ça je trouve dont on n'a pas trop l'habitude c'est d'arriver à mettre des mots. D'une part sur ses émotions et d'autre part sur ses émotions liées au sexe quoi. Moi je pense que c'est primordial qu'on apprenne à parler de sexe si on veut mieux se comprendre et justement mieux se respecter quoi. Que ce soit un débrief après dire là ce que tu m'as fait c'était ouf ou en fait je me suis rendu après coup que j'étais allée un peu trop loin ça me convient enfin en fait je me rends compte que j'ai pas envie de recommencer. Tout ça c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. Donc bon, moi je pense pas que la solution, pour être très sincère, soit à 100% dans le porno. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on se bouge les fesses et qu'on fasse des vrais contenus d'éducation sexuelle. Enfin pour le coup, des vidéos, ce qu'on veut, mais à vocation purement éducative. Je comprends pas qu'il y ait pas des méga budgets en fait pour ça, quoi. Mais bon ça n'existe pas ou très peu.
Il y a des chaînes YouTube là-dessus qui cartonnent quoi.
Ah écoute, tant mieux.
Il y a un vide.
Ouais. Je trouve que ça devrait être.
Les jeunes cherchent des réponses, quoi.
Enfin, ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que ça devrait être des contenus qui sont accessibles pour tous les élèves, en fait. Je sais pas, à l'entrée au lycée ou avant au collège. Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'enfants, j'y connais rien aux jeunes et aux enfants. Pardon. Non, je disais, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on pointe du doigt le porno en disant, mais maintenant ils accèdent au porno de plus en plus jeunes. Enfin, c'est.
Propose autre chose, quoi.
Bah ouais, et puis en fait, mettez en ligne des contenus d'éducation sexuelle dignes de ce nom, comme ça personne sera obligé d'aller voir.
Bah oui.
Voilà, des. Bon, bref. Donc voilà.
Oui, et puis c'est pas que pour des questions morales évidentes, ces questions de respect et de consentement. C'est aussi si ton ou ta partenaire t'aide à savoir ce qui lui fait plaisir, il y a des chances que toi, si il ou elle kiffe plus, toi aussi tu vas plus kiffer, quoi. Donc. T'es aussi gagnant dans l'histoire, quoi.
Bien sûr. Et alors ça, pour le coup, en tant que femme hétéro de plus de 35 ans, je me rends compte, en tout cas, que dans ma génération de femmes, qu'on n'a pas forcément l'impression qu'on est légitime, en fait. Par exemple, soit à se faire soi-même plaisir pendant un rapport en se touchant, soit en guidant notre partenaire. Et c'est vrai que là-dessus, je me suis dit, c'est pour ça qu'en fait, on a créé Vox en 2018, parce que l'idée, c'était vraiment de libérer, on va dire, le sujet de la masturbation féminine.
Ouais.
De dire, OK, déjà, touchons-nous en privé, parce que en fait, ça apprend à se connaître. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, ça apprend à se connaître. Et du coup, plus on se connaît soi-même, après, plus dans un rapport sexuel, on va pouvoir guider l'autre. Mais aussi, comme je te disais un peu plus tôt, apprendre à utiliser des mots, mettre en scène le fait de suggérer des choses à son partenaire, etc. Et ça, dans le porno mainstream, on voit jamais une meuf qui prend la main du mec et fait plutôt comme ça, ou alors là, t'y es pas.
Mais oui. Et que ce soit drôle et que.
Ouais, voilà. Alors que ça, franchement, dans la vie. Dans la vie sexuelle réelle, c'est plutôt ultra bienvenu et ça permet des rapports de meilleure qualité. Hein. Mais même d'ailleurs, moi je parle de mon point de vue de femme, mais c'est la même chose pour les mecs. Enfin, il y en a pas un qui aime la même pression, le même rythme, le même endroit dans la façon dont on va toucher son sexe. Donc en fait, si on normalisait le fait de se dire ces choses-là, je pense qu'on serait beaucoup plus épanoui sexuellement, quoi.
Ouais. Je me demandais si, pour faire prendre conscience aux gens de toutes les différentes pratiques ou différences qu'il peut y avoir avec le porno mainstream, si j'en ai identifié 2-3, mais si tu penses à d'autres, que 1, effectivement, les travailleurs vont être mieux payés, 2, ça j'avais pas du tout pensé, mais que en général tu peux choisir tes partenaires en tant que performeur. Et 3, c'était marrant, je t'entendais parler de, évidemment, de mettre plus de diversité à la fois dans les personnes, mais aussi dans les formes de sexe. Et oui, toi, tu parlais un peu que tu as ce côté très artistique où tu vas faire des gros plans, mais plus vraiment artistique que juste factuel, quoi. De montrer les soubresauts d'une bite en érection. Ou c'est vrai que tu disais que, en fait, c'est vrai qu'en tant que les pornos sont souvent faits par des mecs pour des mecs, et que un mec, il trouve une bite, il trouve ça moche. Alors qu'en fait, une femme, souvent, ça peut trouver ça beau, quoi. Et voilà, c'est juste quelque chose, typiquement,
ouais.
On n'entend pas forcément, quoi.
On aime bien, on aime bien voir des bites, ça c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de femmes hétéros regardent du porno gay masculin. Mmh. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Par rapport
sur la diversité ou le choix des partenaires ou les sous-brosseaux des bites.
Non, écoute, je me suis perdue. Putain, c'est con, là. J'ai le cerveau un peu enfumé ce matin. Enfin, je fume pas. Ouais. Hein. Je dis ça parce que j'ai nettoyé ma cheminée. Je suis pas la doc gynéco du porno.
Est-ce que tu penses à d'autres différences avec le porno mainstream?
Si, je vais te le faire. Ça y est, ça me revient. J'ai mon petit manifeste qui revient. Alors, écoute, oui, je vois plein de différences en fait entre le porno alternatif et le porno mainstream. Déjà, dans le porno alternatif, souvent, on va voir plein de corps différents, plein de sexes différents. Donc ça, moi, je pense que c'est crucial. Alors moi, j'ai un corps qui est assez normé, hein.
Femme blanche, jeune.
Ouais, relativement mince, valide, voilà. Mais dès qu'on a un corps qui sort un petit peu de ce corps standard, on est dans le porno, on est soit complètement invisibilisé comme étant pas attirant, soit fétichisé en mode freak show, quoi. Ouais. Regardez, on va baiser cette personne qui a un corps différent. Bon, donc dans le porno alternatif, il y a une mise en scène sensible et respectueuse de toute forme de corps et aussi de toute forme et aspect de sexe, ce qui, en fait, on s'en rend pas compte, mais est quand même source d'anxiété. Et là, je pense dans les, enfin voilà, pour les deux sexes, hein, les sources d'inquiétude sur l'aspect de ces parties génitales, c'est quand même assez répandu. Donc c'est bien de s'exposer un petit peu à des choses qui sortent. Des corps et des sexes standards. Après, oui, il va y avoir toute une réflexion sur les conditions de production, notamment autour du consentement. Donc ça, tu le disais très bien, pouvoir choisir son ou sa partenaire. Ça, dans ce que j'ai lu sur le porno mainstream, il est fréquent qu'en fait ta partenaire change, enfin, ou que même tu t'y intéresses même pas, donc tu découvres le matin même en fait qui c'est, ou que la personne change à la dernière minute qu'on t'en avertisse pas. Enfin bon, voilà.
Donc ça, toi, c'est dans le casting en amont ou
Ah bah oui, c'est dans le casting en amont, et puis il y a des rencontres en fait préalables entre les gens qui vont tourner ensemble
pour vérifier que ça match.
Pour valider. Et en plus, ce qu'on a fait donc dans le cadre du long métrage, c'était vraiment essayer. Alors dans le porno alternatif, de façon générale, il y a une rencontre entre co-performeurs en amont du tournage, donc par exemple une semaine avant, et tu discutes de tes limites, de ce que tu as envie de faire, de pas faire. Et moi, j'avais trouvé en tant que performeur débutante à l'époque que c'était un exercice compliqué parce que moi-même, dans ma vie intime, je n'avais pas trop de notions à l'époque de qu'est-ce que je ne veux pas faire. Et donc, du coup, je me rappelle que la conversation ne s'était pas très bien passée parce que j'avais essayé de donner des détails, mais des trucs à la con. J'aime pas qu'on me touche la peau des tibias, tu vois. Et le mec en face était là, mais waouh, ça a l'air hyper compliqué et tout. Donc, ça, c'était pas. Je ne savais pas comment gérer ça, quoi.
Oui,
donc, du coup, ce que je me suis dit. C'est de proposer en fait un questionnaire, en tout cas une structure d'entretien. Ouais. Et donc c'est ça qu'on a fait sur le dernier film, c'est de proposer. On avait vraiment un feuillet avec plein de questions qui permettent d'avoir l'idée de par exemple les jeux de salive. Et ça c'était inspiré des questionnaires BDSM. Est-ce que t'aimes bien qu'on te pince un peu, qu'on te morde. Enfin, mais parce que sinon t'y penses pas. Enfin, poser ces questions-là. Quoi. Donc voilà. Donc ça déjà on a essayé un petit peu de réguler, de cadrer un petit peu la conversation sur le consentement pour essayer de la rendre un petit peu exhaustive. Quoi.
Est-ce que ces questionnaires, ils sont publics? Parce que je me dis, ils pourraient servir à n'importe quel couple, en fait.
Ah bah oui, mais de toute façon, alors ça, les questionnaires, ils sont pas publics parce que pour le coup, ils étaient adaptés au film. C'est-à-dire que ce qui faisait partie du questionnaire, c'était aussi voilà ta scène, tu vois, enfin pour que.
Oui.
En fait, pour le coup, ce qui faisait aussi partie de la discussion sur le consentement, c'est que la scène de sexe soit très scriptée. Mmh. Et donc, du coup, c'est bon. Mais oui, si les gens veulent trouver ça, je pense qu'il suffit qu'ils tapent questionnaire BDSM, en fait. Et il y a des questionnaires sur ce que t'aimes donner, ce que t'aimes recevoir. Et donc, là, ça sort c'est ultra exhaustif, quoi. Ça parle de pénétration, mais pas que, quoi.
Ouais, ça peut être un super point de départ pour avoir une discussion et un support plutôt que.
Et puis après, tu peux le customiser.
Ouais.
Tu peux le customiser. Donc il y avait ça, il y a eu moi c'est un truc que je trouve qui devrait vraiment se généraliser. On a eu une coordinatrice d'intimité sur le tournage, ça je ne comprends pas. Par exemple, Canal+ a imposé en quelque sorte dans le porno français le port de capote pour tout rapport pénétratif. Il disait en fait nous c'est simple, on ne diffuse plus s'il n'y a pas de capote. Et donc, du coup, ça a imposé cette pratique de port de la capote dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films français. C'est vraiment une spécificité française. Hein. Tu vas dans un autre pays d'Europe, c'est pas le cas.
Okay.
Donc ça, tu vois, les mecs ont quand même réussi à complètement mettre une bonne pratique, imposer une bonne pratique. Moi, je trouve que, par exemple, ils devraient aussi dire, en fait, on prend plus de films s'il n'y a pas coordination d'intimité sur le tournage. Parce que ça apporte vraiment quelque chose, en fait. C'est une personne qui est neutre, qui n'est pas là. Alors, c'est une personne qui va être neutre, qui va pas être la production et qui va être un petit peu, un petit peu la nounou des performeurs. Donc en fait, l'intérêt, c'est que donc elle va les rencontrer en amont pour parler de leurs limites, etc. Elle les aura bien en tête. Donc moi, pendant que je réalise et que j'ai aussi à gérer l'image, le son, enfin évidemment les limites des performeurs, mais bon voilà, mon cerveau il est un peu partout. Elle, cette personne-là, elle est vraiment focus sur les limites qu'ils ont exprimées avant le tournage. Elle fait en sorte que ce soit respecté. Et puis c'est une personne qui est proche d'eux et qui est pas intimidante comme peut l'être quelqu'un qui est en train de réaliser, etc. Donc ils ont Et donc là, ils ont un safe sign, comme il y a justement aussi dans le BDSM, donc un signal, s'il y a quelque chose qui ne va pas, un signal qui peut être discret et qui fait que la coordinatrice d'intimité va dire à la réalisatrice, réalisateur, bah, on arrête la scène. Ouais. Et sans que ça mette les, voilà, que les performeurs se disent, ah, donc il y avait, enfin, sans qu'ils se disent, j'ose pas, quoi. Ouais. Parce que là, c'est une autre personne qui prend la responsabilité de dire, stop, quoi. Donc, je pense que ça peut vraiment aider à ce qu'il n'y ait pas de situation pressurisante. On avait aussi proposé de payer les performeurs avant la scène. Mais ça, il y a des performeurs qui sont plutôt contre en disant on fait un travail comme n'importe quel travail, vous n'allez pas nous payer avant, enfin on sait ce qu'on fait, etc. Okay. Mais en tout cas, pour les personnes que ça rassure, moi je trouve que c'est bien de proposer de payer avant, comme ça le consentement peut être retiré pendant le tournage sans qu'il y ait de crainte de perdre son salaire pour quand c'est une personne qui est précaire, si ça arrive. Donc, il y a des, enfin, donc dans le porno éthique, pour en revenir à ta question de base, il y a des réflexions en fait là-dessus. Tandis que dans la production du porno mainstream, il faut regarder le documentaire de Vidi qui s'appelle Pornocratie, qui décrit en fait l'ubérisation du porno et comment en fait depuis des années, on se retrouve, les boîtes de prod se retrouvent avec des tout petits budgets et essayent de filmer avec ces tout petits budgets des scènes de plus en plus extrêmes pour attirer du monde sur les tubes, quoi, sur les plateformes gratuites. Donc ça, on se retrouve avec des jeunes filles à peine majeures qui doivent accepter des doubles, des triples pénétrations, payées de moins en moins cher. Et en plus, une fois qu'elles ont été vues dans plusieurs situations sexuelles, elles perdent de leur intérêt, elles peuvent rentrer chez elles, elles ont 19 ans et demi. Elles sont déconsidérées parce que le porno s'est stigmatisé. Enfin bon, bref, c'est quand même des situations terribles, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme...
Bon, c'est déjà bien. Et
c'est déjà bien. Après, le porno éthique, c'est un porno aussi, donc du coup, qui est payant, mais du coup, on rétribue les gens qui travaillent dans ce milieu, alors que souvent, ce qu'on regarde sur les sites de porno gratuits, c'est du contenu volé. Avec des personnes qui n'avaient pas forcément prévu d'être visionnées par des millions de gens, quoi. Enfin, en fait, je peux continuer encore longtemps, mais c'est déjà bien.
T'as créé les podcasts Vox et Cox, donc respectivement pour personnes avec vagin et avec pénis. Tu dis que c'est des séances de masturbation guidées. Pourquoi tu t'es lancée dans le podcast?
Parce que je trouvais ça très intéressant de proposer des contenus porno qui n'imposent pas d'image, mais qui te proposent plutôt de toi te faire tes propres images.
Ouais.
Moi, c'est vraiment comme ça en fait que j'ai grandi, on va dire, de façon érotique. C'est beaucoup avec la littérature pour le coup, puisque à l'époque les podcasts n'existaient pas, et donc c'est beaucoup en lisant, et donc je me faisais mes images, et je me suis dit à un moment, mais c'est super de faire des films, mais c'est vrai que quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus en fait à se masturber sans un support d'image, voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc j'avais déjà envie de proposer qu'on remuscle un peu notre imaginaire érotique, hein. Et puis en plus, je trouvais que c'était tu vois, je te parlais un petit peu plus tôt du fait que je trouve que le sujet de la masturbation féminine est tabou et que pourtant il est assez crucial parce qu'il permet. Je suis désolée, il y a un facteur qui arrive. qui va interrompre. je suis désolée.
Bon, je continue quand même. C'est un scénario de cul.
On fait une petite. Oui, je trouvais que c'était bien aussi avec Vox. D'aller chercher les femmes sur le sujet de la masturbation, mais avec des contenus qui soient qui fassent moins peur qu'un porno, qui soient moins stigmatisants, donc qu'on ait moins honte de consommer. Donc du coup, Vox, il y avait vraiment en fait une entrée dans le sujet de la masturbation qui est plus bien-être, plus pleine conscience, reconnexion à son corps, à sa sexualité. Et je me disais que d'entrer par cet angle-là, ça permettrait d'envisager la masturbation, oui, vraiment comme un geste où on prend soin de soi. Et à partir de là, du moment où on a réussi à créer une relation avec une audience, et ben là, on a commencé à proposer tout type de contenu avec une dimension qui, enfin, je sais pas, avec une, ouais, plus une ambition d'explorer tout un tas de thématiques, auxquelles ces personnes ne se seraient pas forcément exposées spontanément. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc que je trouve dans le porno que je trouve intéressant dans le porno alternatif. En fait, je trouve que sur les sites gratuits, qui sait qui fonctionne avec les hashtags et tout, et ben tu vas aller chercher un contenu toi-même et donc rester un petit peu dans ta niche de trucs dont tu te dis que ça fonctionne pour toi.
Tu restes dans ta bulle. Et...
Ouais, voilà. Alors qu'en fait, je trouve que quand tu t'abonnes à un podcast ou quand tu regardes un long métrage ou que tu suis, tu vois, le travail de telle ou telle maison de production alternative, eh bien, du coup, tu vas être exposé à des sujets sur lesquels tu aurais pas pensé
te surprendre.
Ouais, bah par exemple, dans l'orgie de 9 personnes, c'est un documentaire où on aborde des questions autour de la sexualité de personnes en transition, de personnes transgenres. Et ça, bah je trouvais ça hyper bien qu'on puisse aborder ce sujet. Les gens viennent regarder une orgie et puis bah ils ont appris quelque chose et peut-être que ça va leur permettre d'avoir un esprit plus ouvert sur ces sujets-là, tu vois. Donc pareil, avec Vox, on va aussi proposer tu vois, des sujets, par exemple le plaisir anal pour les hommes hétéros, ça c'est plutôt sur Cox. On propose ce type de sujet. C'est pour les gens aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas on les propose. Et donc du coup, ça fait au moins, ça crée une petite réflexion sur ces sujets-là, quoi.
Ouais. Ton livre s'appelle « Jouir est un sport de combat ». Pourquoi est-ce que jouir est un sport de combat ?
Ben parce que je trouve que quand on est une meuf, c'est pas gagné de jouir librement. Enfin, en tout cas, que ce soit les injonctions qu'on peut recevoir explicitement de la part de la société, de ses partenaires amoureux, de ses parents quand on est jeune. Enfin bref, de son lycée. Je trouve que c'est pas facile. Et puis qu'il y a aussi toute une intériorisation, on va dire, de l'idée que la sexualité féminine est honteuse. Et donc pour moi, et j'ai l'impression que je suis pas la seule de ma génération, ça a été tout un parcours un peu de la combattante, de réussir à accepter mon corps de femme, ma sexualité de femme, trouver du plaisir dans mes relations avec les hommes. Ça a été tout un cheminement. Et j'espère que le chemin sera plus doux pour les générations plus jeunes, hein, parce que j'ai l'impression que les choses évoluent. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça a été un combat personnel et ça continue de rester un combat plus politique, plus public, puisque en mettant mon corps en scène et en tournant dans du porno, en réalisant du porno, je continue d'essayer de rendre la sexualité féminine, un sujet qu'on peut aborder, qu'il est enrichissant d'aborder, et non pas quelque chose qui fait peur.
Ouais, trop bien. Je me suis régalé. Je trouve ça trop cool qu'on puisse avoir des discussions, tout à fait normales sur un sujet qui est beaucoup trop tabou à mon avis, et ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Hier, j'étais mort de rire parce que j'étais là. Attends, je suis en train de regarder du porno. Non, mais c'est pour le travail. Ma vie est géniale.
J'arrive plus à regarder. Je suis très désensibilisée du coup du fait que je travaille sur ces thématiques-là.
Bah oui. Donc,
du coup, je n'arrive plus à regarder ou à écouter du porno parce que c'est devenu vraiment mon boulot, quoi. C'est ma malédiction, je peux pas profiter de mon travail.
Filez écouter les podcasts érotiques Vox et Cox d'Olympe. Et abonne-toi à Soif de Sens. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous et parlez de ce podcast à un ou une amie avec qui tu parles de cul. Ça lui fera beaucoup de bien. Ciao tout le monde, merci beaucoup Olympe.
Au revoir.